La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne.
Alors, nous étions en train d'évoquer un couple après Adam et Ève qui s'appelle donc Abraham et Sarah dans ton livre Les couples phares de la Bible paru chez Salvatore. Et nous évoquions le fait que ces deux-là marchent depuis 10 ans, ils foulent la terre de la promesse. Et Sarai voit bien qu'Abraham est déçu lorsqu'il la regarde dorénavant. C'est alors que l'idée germe dans son esprit, puisque l'usage permet à une esclave d'enfanter sur les genoux de sa maîtresse stérile, eh bien Sarai va prendre Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donner pour femme à son mari, Abraham, en lui disant « Peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. » Et le texte de conclure, « Abraham écouta la voix de Sarai. »
Alors, cette pratique d'avoir des enfants à travers une de ses esclaves pour une maîtresse qui est stérile, d'aucuns aujourd'hui se plaisent à la considérer comme l'ancêtre de la gestation pour autrui, la célèbre GPA. Ils ne s'intéressent pas à la Bible sinon, et en réalité, ça ne s'est pas bien passé du tout. En effet, dès qu'elle a été enceinte, Agar, elle a toisé Sarai, et elle a cessé de la respecter, parce qu'en fait, c'est elle, la mère. Donc la zizanie est entrée sous la tente de Sarai, qui va en goûter les fruits plus qu'amers. Agar était révérencieuse d'habitude. Mais là, avec elle, elle devient insolente. Alors, Sarai va voir Abraham et elle va, au lieu de elle qui l'appelait son seigneur, etc., Adoni, voici qu'elle va déverser sur lui sa colère et sa rancœur. Elle lui déclare : tu es responsable de l'injure qui m'est faite, que Yahvé juge entre moi et toi. Je dirais qu'il fallait qu'elle soit à bout pour appeler ainsi au jugement de Dieu.
Oui, en effet. Contraint de choisir entre Sarai et Agar, Abraham va faire droit à son épouse. Le texte nous dit « Fais-lui comme bon te semblera ». Et le résultat ne se fait pas attendre. Sarai la maltraita tellement que l'autre s'enfuit de devant elle. Et sans l'intervention d'un ange venu réconforter Agar et lui révéler le nom de l'enfant qu'elle porte, Ismaël, qui signifie « Dieu entend », jamais celle-ci ne serait retournée auprès de sa maîtresse. Abraham avait 86 ans quand Agar le fit père d'Ismaël. 13 années vont s'écouler et un fragile équilibre s'est alors établi sous la tente de Sarai. Abraham est redevenu un époux aimant et fidèle. Agar n'est plus que la servante et la nourrice attentive d'Ismaël, que son père évidemment idolâtre, persuadé qu'il est le fils promis, puisque sa naissance est consécutive à l'alliance entre les morceaux, sceau posé sur la promesse d'obtenir un héritier issu de son sang.
Oui, ça c'est le chapitre 15 de la Genèse qui nous en parle. Cependant, lorsque Abraham a 99 ans, voilà que Dieu va lui donner la Brit Mila, c'est-à-dire l'alliance de la circoncision. C'est au chapitre 17 de la Genèse. Quelle en est la portée? Alors le péché originel consistant dans la rupture par Adam et Ève de l'alliance établie dès l'origine entre l'homme et la femme pour qu'ils soient l'image et la ressemblance de Dieu, eh bien tout se passe comme si désormais un voile obstruait la relation avec le Créateur. C'est pourquoi la circoncision vise, en ôtant le prépuce, à retirer ce voile pour rétablir la fécondité du lien entre l'en haut, à savoir le ciel, et l'en bas, à savoir l'humanité pétrie de terre. Elle comporte ainsi, la circoncision, deux opérations successives. La Mila, laquelle est un geste qui va de haut en bas et qui enlève l'excès de peau, suivi de la Péria, laquelle, d'un autre geste, de bas en haut, referme les chairs autour du gland. Toutes ces précisions sont très importantes pour comprendre en quoi consiste ce lien avec Dieu. dans la circoncision. À ce titre, d'ailleurs, pour comprendre la différence, le Coran ne prescrit que la première.
Des incisions.
Des incisions, celle qui va de haut en bas. Pourquoi ? Parce que l'islam est la soumission à Dieu, c'est-à-dire du haut vers le bas. Au contraire, le judaïsme requiert les deux mouvements. Celui de l'amour de Dieu qui descend du ciel, à quoi doit répondre l'élan de l'homme vers son Créateur. C'est à ces conditions que l'image de Dieu est rétablie.
C'est d'ailleurs ce qui justifie le nécessaire changement du nom de Abraham en Abraham, qui est concomitant à la circoncision. En effet, la valeur sémantique de Tselem Elohim, c'est 248, comme celle d'Abraham après l'ajout du He, qui vaut 5, et marque en hébreu à la fois la féminité et la fécondité, cette dernière donnée à Abraham et Sarai pour qu'ils deviennent Abraham et Sarah. Abraham signifiant père de nombreux peuples, consacrant la dimension universelle de sa mission. Dieu promet aussi la terre de Canaan à la descendance qui doit naître de Sarai, dont il modifie également le nom et le texte d'ajouter « Tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. Je la bénirai et même je te donnerai d'elle un fils. »
Alors, c'est très intéressant ce qui va se passer, c'est que pour toute réponse, Abraham se prosterne et il se met à rire, pas Yitzhak. Il rit en hébreu, se disant en lui-même, un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans et Sarah, qui en a 90, va-t-elle enfanter? Alors, Philon d'Alexandrie, qui est une haute figure des pères de l'Église, la patristique, a beau prétendre qu'il s'agit là d'un rire de joie à l'annonce de l'heureuse nouvelle, la suite du discours lui donne un peu tort, parce qu'il y a un petit bémol. Hein. Prosterné, face contre terre, Abraham suggère à cet instant à Dieu une solution qui lui semble plus raisonnable à vues humaines. Il dit « Oh !» en s'adressant à l'Éternel. « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» D'emblée, il essuie une fin de non-recevoir catégorique de la part de Dieu qui répond « non », c'est-à-dire « ébal », néant en hébreu, « néant ce que tu dis, Abraham !»« Mais ta femme, Sarah, te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui. »
Alors, le rendez-vous est donné l'an prochain à cette saison. On est donc à la fin de l'été, le 10 Tichri, qui va devenir le jour de la célébration annuelle de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Aujourd'hui encore, rendez-vous respecté du judaïsme. Abraham s'exécute aussitôt, il circoncie lui-même son fils Ismaël, âgé de 13 ans, puis tous les mâles de sa maison, libres d'ailleurs ou esclaves, et il finit par se circoncire lui-même.
Alors, trois jours plus tard, au dire du Midrash, Abraham est encore souffrant et il est assis au seuil de sa tente à l'ombre du chêne de Mambré parce qu'il fait vraiment très chaud, lorsqu'il aperçoit, un peu comme un mirage, hein, venant vers lui trois voyageurs. Il se précipite à leur rencontre, malgré son âge, malgré sa gêne, malgré la douleur, malgré la chaleur. Et bien qu'ils soient trois, voilà qu'il s'adresse à eux au singulier, détail qui a beaucoup interrogé l'exégèse juive. Pour leur part, les chrétiens y ont vu la préfiguration de la Trinité en mission, magistralement illustrée par le très célèbre tableau, du moins l'icône de Rubliov, représentant trois anges assis à la table d'Abraham, partageant le pain azim et le vin prophétie de notre Eucharistie.
Quant à Sarah, lors de cet épisode, elle est restée à l'intérieur de la tente, comme il se doit en présence d'inconnus, et elle reçoit à son tour l'annonce faite trois jours plus tôt à Abraham. On se souvient qu'il avait ri en lui-même à cette annonce. Et à l'abri des tentures, elle écoute, ne perdant pas une miette de la conversation. Alors l'hôte déclare « Je reviendrai vers toi l'an prochain. Alors ta femme Sarah aura un fils. » Et comme Abraham l'avait fait, Sarah, nous dit le texte, va rire en elle-même, invoquant la même impossibilité que son époux à peu de choses près, puisqu'elle déclare « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir, et mon Seigneur Adoni, qui en plus est un vieillard, pourquoi Sarah Jocelyne a-t-elle ri ?» Ou même, d'ailleurs c'est une question que l'ange pose, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» demande l'ange. « N'y a-t-il rien d'impossible à Dieu ?»
Cette parole, Étienne, tu te souviens, elle est reprise par l'ange Gabriel lors de l'Annonciation à Marie, parce qu'elle est aussi troublée, elle, quand elle l'entend. Elle dit, comment c'est possible que je conçoive un enfant ? Moi, je ne connais pas d'homme. C'est au chapitre 1 de Luc, au verset 34. Et elle ne saurait enfanter dans ces conditions, étant vierge de surcroît. Aussitôt, dans le cas de Sarah, Sarah va démentir qu'elle a ri, parce qu'elle est prise de panique d'être ainsi devinée par quelqu'un qui ne la voit pas et qui ne peut pas l'entendre, parce qu'elle a ri in petto à l'intérieur d'elle-même. L'ange rétorque « Si, tu as ri ». Les rabbins ont beaucoup glosé sur le rire d'Abraham, manifestation de joie pure, en l'opposant à celui de Sarah, que sa dénégation convaincrait d'incrédulité. C'est faire montre de cette incoercible misogynie que le texte ne corrobore pas, Étienne. Dans les deux cas, c'est le même mot, Vayitsak. Elle rit, il rit.
Il rit.
Voilà, qui donnera Yitzhak Isaac en français. Il rira, un futur qui confère à ce prénom une dimension eschatologique où Israël a vu l'annonce du Messie. Il rira. Le mot rire en hébreu signifie aussi la joie.
D'où l'apostrophe adressée par Jésus aux Juifs qui avaient cru en lui. En Jean chapitre 8, il est dit « Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. » Et il l'a vu et il fut dans la joie. En effet, quand Abraham vit sortir Isaac de la matrice, on pourrait dire morte, de Sarah, il expérimenta par anticipation la résurrection du Christ et sa victoire sur la mort. Et sa joie fut complète, comme celle promise aux disciples par Jésus lors de la dernière scène, lorsqu'il déclare « Je vous verrai de nouveau ». Et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera.
Oui, je trouve que c'est une merveilleuse unité de la parole, j'allais dire comme une tapisserie de haute lisse. Elle est tissée à l'envers, celui qui la tisse ne voit pas le résultat, comme ça, à l'œil nu. Elle est indéchiffrable. Ça, c'est la mission de l'ancienne alliance. Mais quand il passe sur le côté face, qui quitte le côté pile, tout se révèle lumineux sur l'endroit. Et tu vois que c'est l'évangile. L'année qui suivit, pour revenir à Sarah et Abraham, Yahvé visita Sarah comme il l'avait dit et fit pour elle comme il l'avait promis. Elle conçut et enfanta un fils auquel Abraham donna le nom d'Isaac. Sarah exulta à son tour, toujours sur le thème du rire et de la joie. Et elle dit « Dieu m'a donné de quoi rire, et tous ceux qui l'apprendront me souriront. » En fait, me riront.
Tous ceux qui l'apprendront riront.
Riront, c'est ça. Ainsi, tout le texte est secoué, j'allais dire, par ce rire communicatif qui va se répercuter à l'infini jusqu'à devenir le nôtre par la foi.
Et l'histoire de continuer. Quand Isaac eut 3 ans, bien à regret, Sarah va le sevrer. Abraham fit un grand festin, comme c'était d'usage, et profitant de la liesse générale, Ismaël, son demi-frère, alors âgé de 17 ans, au prétexte de jouer avec son demi-frère, se mit à le chahuter, avec une agressivité qui va alarmer Sarah. En un éclair, elle comprend qu'ayant pour lui la force, Ismaël, à la mort d'Abraham, eh bien, tout fils de l'Égyptienne qu'il est, il va vouloir se débarrasser de son cadet, Isaac, pour faire main basse sur la promesse et sur l'héritage. Alors de déclarer à son époux « Chasse cette servante et son fils », dit-elle péremptoire à son époux Abraham. « Il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils Isaac. »
Alors cette parole, nous dit l'Écriture au chapitre 21 de la Genèse, déplut beaucoup à Abraham à propos de son fils, que son amour pour le fringant adolescent aveuglait. Pour le contraindre à écouter la voix de la sagesse, Dieu lui-même dut intervenir auprès du patriarche dans cette querelle de ménage. Et il dit à Abraham, « Écoute la voix de Sarah, car c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. » À l'aube, n'ayant pas fermé l'œil de la nuit, Abraham renvoya Agar et Ismaël. J'allais dire quoi qu'il lui en coûte.
Alors, par son discernement, Sarah se range parmi les 7 prophétesses que dénombre la tradition juive. Et au niveau spirituel, elle n'est plus inféodée à Abraham comme Ève l'était à Adam, car elle bénéficie d'une inspiration spirituelle propre, supérieure à celle de son mari. À ce titre, elle anticipe l'allégorie des deux alliances dont parle saint Paul aux Galates, tandis qu'Agar, l'esclave, enfante Ismaël pour la servitude de la loi, celui-ci étant né de la chair, eh bien Sarah, la femme libre, figure de la Jérusalem céleste, est la mère de nombreux enfants que nous sommes, nous, étant les enfants de la promesse. C'est pourquoi Sarah confesse « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants ?» Tu auras noté le pluriel prophétique, alors qu'elle n'eut qu'un seul fils, Isaac.
Oui, et de même que l'on considère Abraham comme le père des croyants, justice serait de voir en Sarah leur mère. Ce peuple sort non d'un, mais de deux individus, d'un couple. C'est ce que dit Paul Beauchamp dans 50 portraits bibliques. Hein, c'est un couple qui va faire sortir ce peuple. Sans la vigilance de Sarah, la promesse aurait avorté entre les mains d'Ismaël, réservant un mauvais parti à Isaac. C'est pourquoi en hébreu, le nom même d'Isaac cristallise toute l'histoire du salut par les quatre lettres qui le forment. Yud, le premier, c'est l'initiale de Yahvé, nous l'avons dit, et c'est donc la marque de son initiative. Puis, il vient Yitzhak Tzadé, qui vaut 90, l'âge de Sarah, quand elle l'enfante à son fils, puis Red, qui vaut 8, le chiffre du Messie, et enfin Kouf, Yitzhak, qui vaut 100, c'est-à-dire l'âge d'Abraham, exultant de joie, en tenant dans ses bras l'enfant du miracle. Quand on écrit Yitzhak, on a toute cette histoire en un seul mot.
Alors, si on doit un peu résumer les caractéristiques du couple d'Abraham et Sarah, on peut dire qu'ils, déjà, comme premier couple des patriarches, ils sont vraiment un peu, ils sont hors normes. Ils sont loin d'ailleurs d'être toujours d'accord. C'est une chose intéressante, c'est qu'il y a une place pour la dispute, le désaccord sous l'attente de Sarah et d'Abraham, parfois d'ailleurs avec virulence, mais sans jamais mettre à mal la profonde complicité des époux, dont l'union se nourrit de la mission divine qu'ils ont reçue d'engendrer, au-delà de la stérilité et du grand âge, d'engendrer une postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel. Comme ils ont ri de concert en voyant récompenser leur ardente attente, mais comme Abraham a pleuré lorsque, de frayeur rétrospective, en apprenant la ligature d'Isaac au mont Moria, le noble cœur de Sarah de battre s'est arrêté. Elle avait 127 ans, et afin de l'ensevelir avec tous les honneurs, il va ferrailler de haute lutte avec les fils de Heth pour qu'ils lui vendent une grotte qui s'appelle la grotte de Macpéla, située face à Mambré et en possession funéraire à perpétuité, Jocelyne.
Oui, elle est toujours...
Avoir cette grotte pour toujours, pour Israël.
Alors, en fait, les fils de Heth lui ont dit « Mais tu es prince de Dieu, Nissi et Nissi Elohim, en hébreu, c'est un titre très prestigieux. Et personne ne te refusera sa tombe, vont-ils dire. Manière sibylline de lui refuser l'acquisition inaliénable d'un morceau de terre sainte. Mais Abraham va parvenir à ses fins en payant rubis sur l'ongle le prix exorbitant qu'on réclamait de lui. Car Abraham savait que dans la grotte de Macpéla, Adam et Ève avaient été ensevelis. Et ce que Éphron, le Hittite, le propriétaire de la parcelle, étranger au judaïsme, ignorait, lui. À partir de cet embryon de terre sainte dûment acquis, face aux chênes de Mambré, où Abraham avait reçu la visite des trois anges et l'annonce de la naissance d'Isaac, c'est la promesse d'entrer en possession de la terre de Canaan qui pouvait se déployer. Et de fait, à Hébron, encore de nos jours, se trouve la tombe des patriarches qui rassemble autour du couple premier, outre Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Léa. Cette dernière, bien n'étant pas la préférée des épouses de Jacob, c'était Rachel, a été la plus honorée parce qu'elle était la première et la plus prolifique.
Alors Jocelyne, que conclure de ce couple, ce deuxième couple de cet ouvrage, Abraham et Sarah ? Saint Pierre a beau écrire vous les femmes soyez soumises à vos maris en invoquant le haut patronage de Sarah, laquelle obéissait à Abraham en l'appelant son seigneur Adonis. C'est pourtant à Abraham que Dieu va déclarer écoute la voix de Sarah.
Oui, c'est vrai.
Au livre de la Genèse, Genèse 21, verset 12, pour ceux qui voudraient vérifier. Alors, d'une certaine façon, cette allusion traduit de manière alambiquée. C'est-à-dire que quand le texte dit « écoute la voix de Sarah », eh bien, la Bible de Jérusalem, par exemple, dans sa traduction, dit « tout ce que Sarah te demande, accorde-le ». Bon, c'est certainement une manière de flatter la suprématie machiste qui parle d'accorder une faveur plutôt que de reconnaître tout simplement un don, celui de prophétie qui a été dévolu par Dieu à Sarah,
et
tout
oui,
simplement.
Qui est nettement moins misogyne, lui. À ce titre, la tradition juive ne la dépeint pas unanimement, d'ailleurs, sous un jour flatteur. Elle est admirée, certes, mais elle est crainte surtout. Et elle est même accusée d'être égoïste, je cite, violente, indiscrète, paresseuse, oui, et versatile, susceptible de donner le mauvais exemple à ses pareils. Voilà, c'est ce que souvent les rabbins disent d'elle. Comme il est long, j'allais dire encore, le chemin de la parité que Dieu avait tracé pourtant en créant l'homme et la femme à son image et ressemblance, dans une parfaite égalité, dans la complémentarité.
Ainsi s'achève cette émission. Vous pouvez retrouver son contenu dans le livre de Jocelyne, intitulé « Les couples phares de la Bible » paru chez Salvator. La chanson diffusée en fin d'émission sera, pour ceux qui le souhaitent, à réécouter sur ma chaîne YouTube, Étienne Tardon, et aussi d'ailleurs sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Par ailleurs, nous animons des contes, des concerts bibliques et des conférences dans toute la francophonie. Si vous souhaitez nous faire venir dans votre école, collège, lycée, paroisse, groupe biblique, vous pouvez nous écrire au mail de l'émission qui est biblepasapa@gmail.com. biblepasapa@gmail.com. Bonne semaine à toi, Jocelyne.
Bonne semaine, Étienne, et surtout, bonne semaine à tous.
Juste un jour comme celui-là, sans guerre, sans peur et sans reproche, pour être ensemble avec ses proches, fêter les jours avec les siens, sans se soucier du lendemain. Parce qu'on est vivant, parce qu'on est heureux d'être sur terre, vivre au présent, rester dans la lumière. Le goût de vivre s'amenuise, on met le travail en sourdine, on se rassemble en famille, sans croire à l'argent, sans mettre son cœur au coffre fort, suspendre le temps, renier les chercheurs d'or. Avant que le monde finisse, juste un jour, juste un jour. Comme celui-là, un jour pour s'inviter au paradis et mettre au clou tous nos soucis, pour cheminer avec la foi, suivre la Bible pas à pas, pour s'émerveiller de toute œuvre créée.